La chorale sans Sisteracte. Un aspirateur dans la tête, une caverne sous le palais, imaginez. Avec des gestes expressifs, Sœur Erika rappelle les consignes. Les vocalises pleuvent, les dos se sont redressés. On essaye de ne pas bouger les épaules en chantant, et on respire avec le ventre. C'est pourtant l'heure de la digestion, juste avant l'office de nonne. D'habitude, en pareil cas, chacun se penche sur sa partition en évitant de regarder les ombelles se balancer sur le talus. Mais notre nouvelle répétitrice ne nous en laisse guère le temps. Sœur Erika de Jésus crucifié, fixant les présentes de ses pupilles bleues ultra-lucides, tendant ses oreilles omniscientes, si sensibles à la moindre variation mélodique, les pauvres, dirige cependant les chants avec une allure étonnamment décontractée. Elle parodie, en guise de hors-d'œuvre, l'office d'un jour harassant où l'attention de chacune devait être ailleurs. Port de voix, dégringolade dans la cave des fins de phrase, chevauchement des départs, ralentissement du rythme qui s'assoupit jusqu'à s'éteindre, reprise brutale d'une moniale très dynamique, essoufflement et chat dans la gorge, conception divergente sur le ton ou la vitesse à adopter. Bref, rien que de très banal et de très humain dans toute cette chorale. Pour ma part, me sentant, à tort ou à raison, peu concerné, je ris de bon cœur. On n'a plus besoin de la télévision quand on assiste à un pareil spectacle. Quelques morceaux plus délicats sont joués au piano électronique. Les yeux s'écarquillent sous l'effort, bref, la communauté tout entière se reprend, se promettant de ne plus sombrer dans des divagations musicales hétérodoxes, et pour montrer sa bonne volonté, entonne avec un unisson parfait tous les morceaux grégoriens et tous les nouveaux chants qui lui sont proposés. L'harmonie musicale, comme toutes les vertus, n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle suppose une attention de tous les instants. D'ailleurs, j'avoue que je trouve parfois les religieuses de certaines communautés trop concentrées sur leurs efforts. Elles ont alors tendance à chanter de façon scolaire en annonçant consciencieusement sans naturel ni élan. Et ces voix de tête désincarnées, risibles et squelettiques, auxquelles certaines épouses du Christ se croient obligées pour être spirituelles. Comme si leur époux divin n'avait pas été appelé, lors de son passage sur terre, le charpentier de Nazareth. Un charpentier, ça a les pieds sur terre, et ça travaille du concret. Ce ne sont pas des anges qu'il est venu sauver, ce sont des fils d'Adam, des êtres de chair et de sang. Si toutes les religieuses pouvaient ne pas oublier qu'elles sont des femmes, et ont à rendre gloire à Dieu avec leur être de femmes sauvées et rachetées, de femmes choisies pour une vocation sainte, certes, mais de femmes qui chantent avec tout son être, imprégnées de l'onction divine, celui qu'elle aime. De fait, la façon de chanter trahit l'état d'une communauté plus qu'on ne saurait dire. On peut y jauger la ferveur, le degré de présence, l'unité, le dynamisme, la paix, la profondeur et l'humilité. En même temps, il faut reconnaître que, malgré les meilleures volontés, chacune n'a pas forcément reçu des fées dans sa corbeille de naissance, l'oreille absolue ou une voix harmonieuse. La remarquable tonalité de basse de plusieurs sœurs suscitait chez certains touristes la réflexion naïve et modérément appréciée « Tiens, il y a un homme en clôture. » Pourtant, l'attention, les progrès de chacune et l'acoustique aidant, les offices liturgiques peuvent engendrer de mémorables émotions artistiques. On se raconte, pour se consoler, des témoignages de personnes de passage qui en ont tremblé d'extase, s'en sont pétrifiées de dévotion, se demandant toutes ébahies, une fois la porte de l'église franchie, si elle n'entendait pas chanter les chœurs angéliques. C'est une grande grâce, que d'entendre le chant silencieux des cœurs et des vies.